Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Week-end de l'épiphanie pour les catholiques de rite latin, veille de Noël pour de nombreux fidèles des églises orientales. Dans certains pays, la joie est gâchée par la peur. Nous parlerons de l'Égypte dans ce magazine. Nous parlerons également de la solidarité avec les églises d'Afrique. Et en fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Comme de nombreux fidèles des églises orientales, les Coptes orthodoxes d'Égypte s'apprêtent à fêter Noël selon le calendrier julien ce mardi 7 janvier. Une date abordée avec appréhension par la communauté copte d'Égypte, victime de nombreux attentats ces derniers mois. Alors que l'Égypte semble toujours en proie aux violences depuis la chute du président islamiste Mohamed Morsi, les chrétiens souhaitent une stabilisation du pays. Monseigneur Johanna Golta, évêque auxiliaire copte catholique d'Alexandrie, espère que ses frères coptes orthodoxes pourront célébrer Noël dans la sérénité et l'espérance. Ils s'insurgent contre la vision occidentale d'un pays soumis au chaos et croient en l'avenir de l'Égypte malgré les tensions ambiantes.
On ne peut pas nier qu'il y a une certaine peur chez tous les Égyptiens. Nous avons peur de l'avenir, nous avons peur de ce que font les extrémistes, les frères musulmans, mais avec l'espoir, avec l'espérance que nous allons survivre, dépasser ces difficultés. Mais il y aura toujours des victimes, il y a toujours le sacrifice. C'est comme toutes les révolutions, tous les changements dans le monde, on paye le prix. Le gouvernement fait tout ce qu'il peut. Le 1er janvier, la nuit du 1er janvier a passé très bien, pas de beaucoup d'événements. Donc le gouvernement, je crois, contrôle le pays, je pense. Il y a toujours des relations pour organiser l'ordre, la paix, la sécurité entre le gouvernement et les églises. Je pense et je suis sûr que le peuple égyptien est vraiment prêt à payer n'importe quel prix et ne jamais retourner à un état religieux. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui maigrent, les musulmans encore plus, 3-4 fois plus que les chrétiens, quitte le pays. Ceux qui ont peur, ceux qui ont perdu l'espoir, l'espérance d'un avenir calme. Donc, il y aura toujours des gens qui quittent. Mais ce n'est pas grave pour un pays qui a 90 millions d'habitants.
Les communautés chrétiennes en Égypte peuvent donc actuellement vivre leur foi à peu près normalement.
Les paroisses sont toujours ouvertes. On continue à prier, à la messe de dimanche, les activités. Ce n'est pas comme vous imaginez. La presse occidentale prend leur source des extrémistes de l'Al-Jazeera. Des frères musulmans, mais je suis vraiment tout à fait contre cette presse menteuse, contre la presse occidentale qui prend toujours le point négatif de l'Égypte. Non, l'Égypte n'est pas comme ça. L'Égypte ne va pas jamais perdre son but, son espoir. Nous luttons, nous payons le prix et nous aurons un avenir pacifique.
Monseigneur Golta, évêque auxiliaire copte catholique d'Alexandrie en Égypte, interrogé par Cyprien Viette. Deux responsables chrétiens ont été arrêtés jeudi en Malaisie et 300 Bibles importées d'Indonésie ont été saisies en vertu d'une loi qui proscrit l'utilisation du mot Allah par les non-musulmans. En octobre, un tribunal avait interdit au Herald, l'hebdomadaire de l'archidiocèse de Kuala Lumpur, d'utiliser le mot Allah dans son édition en langue malaise. Conséquence directe du jugement, 11 jours plus tard, 2000 exemplaires du Herald étaient bloqués temporairement par des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui voulaient vérifier que le mot Allah ne figurait pas dans les colonnes du journal catholique pour désigner Dieu. Cet arrêt avait inquiété la minorité chrétienne et l'incident qui avait suivi avait soulevé une forte incompréhension. Le premier ministre malais avait alors assuré aux chrétiens que leurs droits seraient respectés. Les événements de jeudi prouvent au contraire que les craintes des communautés chrétiennes sont fondées. Au Népal, la veille de Noël, un groupe d'hindouistes extrémistes a incendié une église protestante et les maisons de 4 récents convertis au christianisme. Selon des témoignages, les assaillants étaient armés. Un responsable chrétien a indiqué que les autorités renâclaient à enregistrer leurs plaintes et ignoraient systématiquement les affaires qui concernent les chrétiens. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui minimisé l'incident, affirmant notamment qu'aucun groupe organisé n'était derrière l'attaque des chrétiens. Dans plusieurs pays, le 6 janvier n'est pas un jour férié. L'épiphanie sera donc célébrée ce dimanche, 5 janvier. Marquée par la venue des mages, cette fête symbolise la manifestation publique de Dieu et la transmission de la bonne nouvelle. Dans de nombreux pays, en France comme en Belgique, la journée est placée chaque année sous le signe de la solidarité avec les églises d'Afrique. Jean-Baptiste Cocagne.
L'Afrique, un continent déchiré par des guerres incessantes et douloureusement marqué par des violences endémiques. République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan du Sud, Mali. Dans la plupart des pays africains en crise, les structures d'églises et les communautés chrétiennes sont souvent les derniers recours face à la faillite des États. D'où l'importance de la quête pontificale de l'épiphanie. L'Église catholique belge est particulièrement mobilisée, car peu de pays ont envoyé autant de missionnaires vers l'Afrique que la Belgique. Elle se focalise en particulier sur les communautés ecclésiales de la région des Grands Lacs, Burundi, RDC et Rwanda, ses anciennes colonies. Pour mener à bien leur œuvre d'évangélisation, les missionnaires et le clergé local doivent pouvoir compter sur un soutien financier efficace de leur apostolat. La distribution de la somme récoltée dans les églises belges est assurée par une organisation, Missio, chargée de veiller à ce que tout se passe dans un climat de justice et de gestion rigoureuse de cette contribution financière. En revanche, ce sont les diocèses locaux qui déterminent leurs priorités. L'année dernière, Missio a envoyé une enveloppe d'une valeur de plus de 30 000 euros à la conférence épiscopale du Rwanda. En France, la quête de l'épiphanie est également destinée aux églises d'Afrique, à leur travail d'évangélisation et de réconciliation au service de la justice et de la paix. L'évêque chargé du dossier, Mgr Patrick Le Gall, a rappelé dans un courrier que le pape François voulait une église miséricordieuse.
Une délégation internationale de la communauté catholique Sant'Egidio effectue une visite à Jérusalem pour commémorer ce 5 janvier le cinquantenaire de l'accolade historique entre le pape Paul VI et le patriarche écuménique de Constantinople, Athénagoras. Cette rencontre a brisé des siècles de silence et de distance entre l'Église catholique et le monde orthodoxe et marqué l'ouverture d'une saison de dialogue et de fraternité. La délégation de Sant'Egidio rencontrera les chefs des églises chrétiennes, les représentants du grand rabbinat, de l'islam et des autres communauté religieuse de la ville sainte pour renouveler l'esprit de dialogue et de fraternité de cette première rencontre. Jérusalem espère désormais accueillir le pape François et le patriarche Bartholoméos Ier. Le Brésil en 2013 rimait avec contestation sociale. Des dizaines de milliers de Brésiliens étaient descendus dans les rues des grandes villes du pays pour protester contre la hausse des coûts des transports publics, mais aussi contre les dépenses colossales investies dans l'organisation en 2014 de la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques de 2016. Mais 2013, pour le Brésil, c'était aussi bien sûr les Journées mondiales de la jeunesse de Rio cet été. 3 millions de jeunes catholiques avaient assisté à la messe conclusive célébrée par le pape François sur la plage de Copacabana. Pour nous en parler, le père Thierry Linard de Guerchin, il a notamment travaillé dans la favela de Rocinha, à Rio de Janeiro.
Se pose que la question de la continuité. Qu'est-ce qui aurait changé après? Ceux qui ont participé ont été heureux de participer, mais point de vue pastoral, en favela où j'habite en partie à Rio, la Rocinha ne peut pas dire qu'il y ait de changement en sens pastoral. Je crois que la visite en soi est inscrit dans un contexte plus large, l'élection du pape et ce qu'il est en train de faire, ce qu'il prétend faire. C'est plus prenant et c'est un travail à moyen terme ou même à long terme. Et ça, les gens sont preneurs, donc ils sentent qu'il va y avoir un changement. Mais comment va se opérer le changement, ils ne savent pas bien. Mais ils sentent que l'Église se rapproche, avec par le pape et certains qui reprennent un peu son discours et son attitude, l'Église se rapproche des gens simples, des gens qui n'allaient plus souvent à la messe. Il a comme acquis une grande crédibilité, et grâce à lui, l'Église a acquis une grande crédibilité. Donc c'est un peu l'Église, certains le ressentent, comme moi je ressens, un peu un souffle nouveau, comme il y a 50 ans avec Jean XXIII et le Concile Vatican II.
L'année 2014 s'annonce riche pour le Brésil, avec la Coupe du Monde et de nouvelles possibles manifestations d'opposition.
Et effectivement, les diktats de la FIFA étaient très mal reçus. Ça rappelait un peu aux Brésiliens des dictats de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc il y a quand même une réaction et se sentait un peu désapproprié de ce mondial. Et effectivement, ça peut créer des problèmes parce que les prix sont très élevés. Pour donner un exemple, au Maracanã, Rio, ils ont reconstruit le stade, mais limitant 10 millions de numéros de places pour donner plus de confort. Et donc, c'est vraiment, la population sent que ce sont les élites, les gens qui ont un pouvoir d'achat, qui pourront aller au match de football. Heureusement, il y a la télévision. Les gens simples, il n'y a personne de la favelle qui va aller au Maracana, quoi.
Le père Thierry Linard de Guerchin, interrogé par Antonino Gallo Faro. C'est l'archevêché de Rio qui l'annonce sur son portail internet. Le pape François a fait un don de 5 millions de dollars aux organisateurs des dernières JMJ pour couvrir une partie du déficit accusé après l'événement en juillet dernier. Ce déficit avait déjà été en partie couvert par la vente d'un immeuble de l'archevêché, des campagnes de dons et les ventes de DVD et de CD des JMJ. L'événement a été financé par l'église et les dons. La participation de l'administration publique s'est limitée à assurer le fonctionnement des services publics. Monseigneur Georg Ratzinger, frère aîné de Benoît XVI, a quitté ce samedi la polyclinique Gemelli de Rome, où il avait été hospitalisé jeudi à la suite d'un léger malaise cardiaque. Pour lui rendre visite, le pape émérite s'était exceptionnellement absenté vendredi matin de l'ancien monastère où il réside depuis le mois de mai, à l'intérieur des murs du Vatican. Une visite discrète et strictement privée, révélée par la presse italienne. Monseigneur Georg Ratzinger aura 90 ans dans quelques jours. L'ancien directeur du chœur de la cathédrale de Ratisbonne était venu passer quelques jours au Vatican pour les fêtes de fin d'année. Avant-dernier volet de notre magazine consacré comme chaque semaine à notre rubrique Livre pour Dieu. Pour commencer l'année 2014, nous vous proposons un livre qui nous offre une vision, celle d'une société où l'économie remet Dieu et l'homme au centre. Son auteur, Richard Sedbon, est directeur au ministère du Trésor israélien, attaché à la lutte contre le blanchiment d'argent. Il est interrogé par Catherine Aubin.
Richard Sedbon, vous êtes donc à Jérusalem et vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'économie selon la Bible ». Vous avez choisi un bleuet pour couverture de ce livre. Quel est donc le rapport entre le bleuet et l'économie selon la Bible ? Et quel est le rapport entre le bleuet et le solidarisme ?
Moi, j'ai voulu avoir un symbole de l'économie selon la Bible, ce que j'appelle le solidarisme. C'est-à-dire, je veux que ce soit quelque chose qui soit dans le présent et dans le futur aussi, puisqu'aujourd'hui, on est en crise, et il faut régler cette crise en revenant vers Dieu, vers l'amour de ton prochain. Alors, la fleur, justement, que j'ai choisie, le symbole, c'est le bleuet, tout simplement parce qu'il est universel. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit tous, ensemble, essayer de tendre vers une autre économie, vers un solidarisme, essayer de mettre de côté l'économie telle qu'on l'a connue depuis une vingtaine d'années. Et ce n'est pas ni contre le capitalisme, ni contre le socialisme qu'il faut se battre, mais tout simplement revenir vers les hommes. Alors, le bleuet, en hébreu, c'est dégania. Dégania, c'est tout simplement le symbole des cinq céréales, c'est-à-dire le blé, l'avoine, l'orge, c'est-à-dire ce qui fait en fait que les hommes puissent se nourrir. Pour les Français, puisque en 14-18, le bleuet a donné lieu à une association qui est le bleuet de France, qui était aussi un solidarisme envers les combattants de 14-18. Enfin, pour les chrétiens, il représente à la fois le sacrifice de Jésus et sa rédemption.
Alors on sent justement dans votre livre, Richard Sedbon, que l'homme est au centre. Est-ce que le solidarisme, qu'est-ce que c'est dans l'économie ? Est-ce que c'est une façon, une autre façon de dire « aime ton prochain comme toi-même » ?
Effectivement, la base justement de l'économie qu'on trouve dans la Bible, il part par ce principe aimer son prochain comme soi-même, qui est une formule que les Juifs ont adoptée avec la Bible. Mais cette formule, on la retrouve aujourd'hui, notamment dans Caritas in Veritate.
De l'encyclique de Benoît XVI.
On voit que justement, dans le christianisme, on a aussi cette vision des choses, d'un amour de son prochain, avec une façon différente de le dire, puisque chacun il a son originalité, sa façon de voir un peu les choses. Mais on arrive tous au même point. Alors vous, les chrétiens, vous dites, chacun traitera chacun comme il veut être traité. C'est la phrase que j'ai trouvé ça très belle aussi. Je crois que Jean-Paul II, il avait dénoncé ce qu'il appelait l'homme qui est créateur. C'est-à-dire que l'homme qui est créateur, qui oublie qu'il est aussi une création. Et à partir du moment où on oublie qu'on est une création, on oublie un peu tout simplement les hommes. C'est la base aujourd'hui de l'économie qu'on doit avoir comme futur modèle économique dans les sociétés. Les gens ont continué à se battre pour survivre aujourd'hui. On a pas ces trois choses que voulait Abraham en fait. Quand il s'installe à Beersheba, on voit dans la Bible qu'Abraham plante un arbre qui s'appelle Échel en hébreu. Et Échel, c'est les initiales de trois mots, nourriture, boisson et logement. Et en fait, Abraham nous dit que la première chose que doit faire une société au niveau économique, c'est essayer, en tout cas, arriver à donner ces trois choses à l'individu social. Et aujourd'hui, on a complètement oublié ça. On a aujourd'hui des égalités de plus en plus grandes. On a aujourd'hui des pauvres qui sont, je dirais, en Israël. Il y a un enfant sur trois qui est en dessous du seuil de pauvreté. Il y a une personne âgée sur deux qui aussi n'a pas à manger. Pour un pays qui se veut quand même le témoin de la Bible et du Mont Sinaï, aujourd'hui il y a une faillite. Pour régler cette faillite, il faut que tout le monde aujourd'hui se donne la main pour essayer justement de monter une société, monter une structure économique qui soit différente de celle qu'on a connue depuis 20 ans.
Richard Sidbon, auteur de l'ouvrage « L'économie selon la Bible », interrogé par Catherine Ova. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche, 5 janvier. Au Vatican, c'est le deuxième dimanche après la Nativité, l'Épiphanie étant, elle, fêtée le 6 janvier. Et c'est le prologue de l'évangile selon saint Jean qui nous est proposé au chapitre 1er. « Tout par lui a été fait et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe ».
Cette méditation ouvre et annonce l'ensemble du récit qui va suivre. Trois affirmations essentielles peuvent être relevées. Tout d'abord, le prologue débute par « Au commencement était le Verbe ». Cette expression rappelle le premier verset de la Genèse lorsque Dieu entreprend la création du monde. Saint Jean nous montre par là qu'avec la venue de Jésus, c'est un nouveau commencement qui a lieu. Lors de la création, Adam et Ève ont péché et ont été chassés du paradis. La venue de Jésus restaure l'homme en lui offrant la possibilité d'entrer de nouveau dans une pleine communion avec Dieu. Il est important de noter qu'à la création, le Verbe est bien présent puisque Dieu crée par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est donc ce même Verbe, celui par qui Dieu a créé toutes choses, qui vient maintenant prendre chair parmi les hommes pour les sauver. Il y a une unité profonde entre les deux textes, celui de la création au premier chapitre de la Genèse et le prologue de saint Jean. Le Seigneur offre à tout homme un nouveau départ. Bien sûr, cette étape est vécue avant tout par le baptême. Mais c'est aussi à chaque fois que nous avons recours au sacrement de réconciliation que le Seigneur nous offre un nouveau commencement en effaçant complètement nos fautes. Lorsque je reçois le sacrement de réconciliation, c'est une véritable œuvre de recréation que Dieu opère. Une deuxième affirmation de ce prologue est le combat entre la lumière et les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il n'est pas dit que les ténèbres ont disparu. Il est simplement dit qu'elles ne peuvent pas empêcher la lumière de briller. Il y a un combat et de ce combat, c'est Dieu qui est vainqueur. Cette proclamation de la victoire par la vie que Dieu donne face à toutes les morts auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne est essentielle. Toutes nos chutes, nos erreurs, peuvent être transformées en Dieu. Parfois, certaines situations extrêmement douloureuses semblent durer pour toujours, comme s'il n'y avait pas de fin possible. Mais même là, le Seigneur nous donne d'expérimenter sa puissance. Il nous permet de tenir debout dans l'adversité, alors même qu'humainement, nous n'en avons plus la force. Enfin, il est dit « Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Ce verset permet de mieux comprendre le premier. S'il est vrai que Jésus propose à tout homme un nouveau commencement, faut-il encore que cette parole de vie soit acceptée? Le Seigneur respecte la liberté de chacun et le bonheur qu'il promet dépend du choix personnel de l'accueillir ou non. Par notre prière, nous pouvons obtenir du Seigneur que de plus en plus d'hommes et de femmes acceptent de recevoir Jésus dans leur vie. En ce temps de Noël, nous pouvons offrir au Seigneur tous les choix de mort que nous avons pu faire, c'est-à-dire chaque fois que nous avons refusé de pardonner, de partager, d'aimer comme lui-même nous a aimés. Le Seigneur souhaite nous visiter pour nous établir dans sa lumière et nous dire « Je t'offre un commencement nouveau, fais-moi confiance. »
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, bon dimanche à tous.